Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
C'est marrant, Jean-Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un coup, limite,
il y a un coup de cul, il y a rien d'extraordinaire.
Oh non, 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 non.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After, spécial Drôle de Dame, la seule émission à la radio qui parle pendant 2 heures de football étranger pour l'Italie. Une drôle de dame qui aura vu et su longtemps avant tout le monde. Max Allegri va finir par envoyer la Juve dans le mur. Vous l'aurez entendu ici pendant 3 ans. Le prophétique Johan Crochet est avec nous ce soir. Bonsoir, cher Johan.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Pour l'Angleterre, une drôle de dame qui est passée en quelques heures d'un City Arsenal à un OM PSG et qui a certainement préféré le deuxième. Bonsoir, Gino Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui, tel Roger Federer en 2017 ou Michel Sardou en 2023, va faire son grand retour sur scène cette année. Planquez vos filles, sortez vos dames, rois et cavaliers. 4 ans après, Polo est de retour devant l'échiquier. Bonsoir, mon cher Polo.
Bonsoir, mon cher Nico. Bonsoir, tout le monde. C'est en réflexion.
Ah, c'est qu'en réflexion. Bah écoute, ouais, hein, tu vois, j'ai fait ça pour te pousser à franchir le pas de ton retour. Et oui, il va peut-être reprendre.
Oui, j'ai vu Twitter.
Les échecs en tournoi. En Italie, d'ailleurs, chez Johan, peut-être.
Ouais, chez Johan. Ouais. Ah, enfin, ouais. Italie du Nord. Hein.
Oui, en dessous de Milan, ouais, ça va pas.
Il se fait l'enchaînement avec les pompes. Parce que Polo, il se fait l'enchaînement avec les pompes du Sud. Hein.
Ce serait quoi, Polo? Un master de plus de 50 ans, c'est ça?
Non, il y a plusieurs possibilités, mais si je vais dans le master, donc en gros la première catégorie, je vais me taper des grands maîtres à 2006, donc ça va être encore un peu dur pour le retour. Et puis si je vais entre guillemets en deuxième division, je serai l'un des favoris, mais il y a plein de petits jeunes qui poussent, donc je serai vexé de perdre contre un gamin, quoi.
Bon, on enverra une caméra évidemment sur place, Polo, quand tu auras entériné.
On peut être ton staff, si tu veux.
On peut être ton staff.
Comparateur physique.
Ouais, je viens bien avec la serviette derrière.
3 mois. De préparation.
3 mois de préparation.
Ouais.
Moi, je m'occupe de l'after après. C'est les soirées après match. Quoi.
Pour l'Espagne, drôle dame qui, en ce jour de résurrection, nous fait l'honneur d'être avec nous, car un journaliste ne chôme jamais. Alléluia. Bonsoir, Fred Hermel.
Ah, c'est beau, c'est référence. Oui, oui, j'étais à la messe hier, bien entendu. Hola, chicos. Surtout qu'en Espagne, c'est. De toute façon, je pense qu'on va en parler.
Ce sera l'objet d'une minute ce soir. Je ne dis pas laquelle.
De quelqu'un. Mais c'est vrai que la semaine sainte, c'est la semaine la plus importante en Espagne, quoi. C'est sans aucun doute.
De quoi allez-vous nous parler ce soir, les drôles dames? 15 secondes chacune, précisément. Johan, je commence avec toi.
On va parler de la première d'Igor Tudor sur le banc de la Lazio, très intéressante, avec des choses qu'on avait expliquées il y a quelques jours dans l'after et d'autres qu'on a pu apprécier. De l'autre côté, évidemment, on va parler de la Juve qui est en pleine crise, qui gagne plus un match. Sur les 9 derniers, elle en gagne un, qui est catastrophique dans la prestation, ça en a l'habitude, mais maintenant aussi dans les résultats. Et on aura une minute, évidemment, autour de Pâques.
Julien.
Le grand choc du week-end, bien sûr, entre Manchester City et Arsenal, assez fascinant tactiquement, même sans but, même avec un 0-0. On va parler du nouveau leader maintenant, forcément, la course au titre maintenant entre Liverpool, donc le nouveau leader City et Arsenal. Et puis on aura une minute sur un prêt, un transfert au mois de janvier qui s'est finalement pas très bien passé.
Fred.
Bon, bien entendu, on va parler du Barça qui a disputé son dernier match avant sa visite au Parc des Princes dans 10 jours, puisque la semaine prochaine il y a finale de la Coupe et donc le Barça se repose, se prépare. On donnera des nouvelles des blessés qui pourraient être de retour pour le match face au PSG. On va parler de Rodrigo. Franchement, avec le Real, Rodrigo, est-ce qu'il faut vraiment le sacrifier avec l'arrivée de Mbappé? On va commencer à poser la question et à donner quelques réponses. Et puis on va parler dans la minute de Manuel Pellegrini, qui a le pire mois de mars de l'histoire du Betis.
Polo.
On va beaucoup parler des coachs en Allemagne et notamment des coachs cet été. Vous avez appris que Xabi Alonso allait rester à Leverkusen la saison prochaine. On va voir est-ce qu'il a obtenu des garanties. Et puis on va s'intéresser aussi au Bayern Munich. Il y avait ce fameux classiqueur ce week-end pour ceux qui pensent que le mot est classiqueur pour cette rencontre. Et la deuxième chose, c'est avec quel coach l'année prochaine et le retour peut-être de Julian Nagelsmann.
Et puis n'oubliez pas, 21h45, votre quart d'heure habituel le lundi soir. Vous nous appelez le 32-16. Max est là. Posez vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien. Vous pouvez d'ores et déjà appeler d'ailleurs pour réserver votre place à 22h l'after avec Gilbert. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars, 2 jours de Ligue 1 comme tous les lundis bien sûr, avec ce soir Florent Gautreau et Walid Acharchour.
et qui sera avec nous pour une fois le lundi. Il est chaud, Walid, il veut parler de l'OM et des joueurs marseillais qui ne sont pas au rendez-vous. On reviendra bien sûr sur le match OM-PSG 24 ans plus tard, notamment sur les publications Instagram de Kylian Mbappé et la façon dont il a vécu sa sortie. Et puis les autres, Brest a-t-il fait le plus dur en gagnant ce week-end? Ils sont sur le podium, il y a un petit écart maintenant qui se crée. Et bien justement, il y a pas mal de perdants dont il faut qu'on parle ce soir. Rennes, Nice, Lens, entre autres, analyse de ces résultats tout à l'heure dans l'after pendant deux heures. Et puis le fameux tifo marseillais, bien sûr, également, on vous expliquera.
J'ai rien compris, moi. Tifo Redon Bougueraba, un humoriste.
Ouais. Je ne sais pas, donc j'ai pas compris la.
Voilà. Bon, ben voilà.
Bon, ben tu écoutes tout à l'heure, tu sauras tout.
Tu sauras tout. Écoute bien. Tout à l'heure, JB, à 2h pour l'after sur RMC. Puis je vous rappelle que ce soir également dans l'after foot, nous vous offrons le tout nouveau maillot de l'équipe de France de football qui vient tout juste de sortir pour l'Euro 2024. RMC sera d'ailleurs la radio officielle de l'Euro. Et grâce à Intersport, vous allez pouvoir le remporter. Pour cela, il faut s'inscrire en envoyant bleu, B-L-E-U-S, au 732-16, bleu au pluriel, au 732-16. C'est parti pour Génération After spécial Drôle de Dame. Julien, Manchester City, Arsenal, faut-il être critique après ce duel au sommet qui a accouché d'un nul 0-0 ou est-ce que toi tu préfères y voir une confrontation tactique de haut niveau, un match pour les puristes, pour les spécialistes, pour les amoureux des combats tactiques? Où tu te places toi mon cher moi, Julien?
Moi je comprends très bien les gens qui ont regardé, qui n'ont pas apprécié, qui se sont ennuyés devant un 0-0 avec trois tirs cadrés. Avec finalement, même dans ces trois tirs cadrés-là, très peu d'occasions, même des tirs non cadrés d'ailleurs. Je peux très bien le comprendre, tu t'étais préparé, c'est le meilleur championnat du monde, c'est deux des meilleures équipes d'Europe actuellement, deux très grands entraîneurs, des très grands joueurs, tout ce que tu veux, très bien. Après, je pense que tu dois aussi pouvoir analyser un match, et même avant que tu regardes ce match à la télévision, te dire dans ta tête, voilà, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui. On savait tous très bien que ça n'allait pas finir sur un 5-4. C'est pas du tout le genre ni des entraîneurs ni de ces deux équipes-là. C'est deux équipes qui veulent le contrôle du match. Pour avoir le contrôle d'un match, il y a surtout deux moyens qui peuvent finalement s'opposer, comme on l'a vu hier. Le premier, c'est à travers la possession. Donc tu as le ballon, tu as beaucoup le ballon, ça te permet de contrôler le match. Et l'autre moyen, c'est dans ton organisation, dans ta structure tactique, défensive et spécialement, bien sûr, comme l'a fait Arsenal hier. Et au final, les deux se sont annulés. Et ce sont la confrontation a annulé finalement les forces des deux équipes, des forces en présence, parce que d'un côté, on a eu la possession pour City, mais qui, effectivement, a fait face à l'organisation et au contrôle tactique d'Arsenal, qui, rappelez-vous quand même, leurs deux dernières visites à l'Etihad, la saison dernière, ils avaient perdu 4-1 en jouant leur jeu habituel, et l'année dernière, ils avaient perdu 5-0 en jouant leur jeu habituel aussi. Donc à un moment, si t'es Mikel Arteta et le joueur d'Arsenal, tu t'es dit, bon, aujourd'hui, on va pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire par le passé, on va presser par moment, on va presser simplement quand il y aura quelque chose qui va déclencher le pressing, comme disent les Anglais, ils appellent ça la triggers. Donc quand il y a quelque chose, un mauvais contrôle, une mauvaise passe, là on fait remonter le bloc. Mais sinon, on va rester très bien organisé. On va demander à Gabriel Jesus et Saka, qui étaient les deux joueurs de côté, les deux ailiers, de finalement entrer à l'intérieur, être très discipliné tactiquement, défensivement surtout. On a vu un très grand match de William Saliba et de Gabriel Magalhães, l'ancien Lillois, contre Erling Haaland notamment, qui pour la troisième fois cette saison contre Arsenal n'a pas un seul tir cadré. Ça lui était jamais arrivé. Il faut se rappeler aussi que Manchester City n'avait pas marqué de but à domicile, donc en championnat à l'Etihad, depuis 2021. Ça faisait près de 900 jours, 50 matchs qu'ils n'avaient pas.
C'est Crystal Palace, je crois, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est ça, exactement. Ils n'avaient pas su ne pas trouver la faille et marquer un but. Donc ça n'arrive pas tous les jours non plus que tu puisses aller à l'Etihad et faire une performance défensive comme ça. Bien sûr, Arsenal aurait pu peut-être plus jouer, ils auraient pu jouer plus haut, ils auraient pu être un petit peu plus offensif, on va dire. Mais encore une fois, si c'est pour te faire contrer ensuite par City et perdre, ça ne sert à rien. Avant le match, Guardiola avait dit, juste pour finir, avant le match, Guardiola avait dit le perdant de dimanche aura perdu dans la course au titre, il pourra plus être champion. Et donc je pense qu'au final personne voulait vraiment perdre cette rencontre, même si ça laisse un petit peu d'avance à Liverpool.
Bon, je me rappelle un temps pas si lointain où le championnat espagnol était notamment selon Fred Hamel le plus grand championnat du monde, où les Real Barça accouchaient souvent d'un spectacle exceptionnel, abondant en buts. C'est question de philosophie également. Là, on a deux hommes qui ont voulu se neutraliser, anesthésier l'autre. Je sais pas quel regard vous portez là-dessus, dans l'approche d'un tel match.
Simplement, on a le droit,
ne surtout pas perdre,
par moment, d'avoir des mauvais matchs. Moi, je me souviens, alors qu'il y avait Mourinho sur le banc et Guardiola en face, de 0-0 entre le Real et le Barça, absolument immonde. Et on disait, c'est immonde. On cherchait pas les excuses tactiques.
Sauf que là, ah, tu penses, là, c'est là, pas forcément immonde, d'ailleurs. Voilà.
Mais non.
Non, non, mais,
Johan.
Non, juste pour taquiner un peu, mais c'est vrai que.
Bah, moi, c'était pareil.
Quand il y a un 0-0 en première ligue dans un grand match, on parle de bataille tactique, quand c'est en Italie, en Espagne.
C'est ce que je veux dire, en fait.
Bah, on dit que le match est dégueulasse, que c'est un spectacle pourri.
Surtout, bataille tactique en Angleterre, ça fait rigoler quand même.
Donc, bah, il se trouve que, bah, pourquoi pas Polo?
Mais, non,
ça fait rigoler en Angleterre.
Non, mais parce que déjà, l'histoire de l'Angleterre, c'est pas des batailles tactiques.
Et ça n'a rien à voir avec Mikel Arteta et Pep Guardiola, l'histoire de l'Angleterre.
Parce que justement, la première ligue n'est plus un championnat anglais, c'est un championnat globalisé. Donc c'est alors que toi, tu continues à dire que c'est anglais. Non, ce n'est plus anglais.
Moi, j'ai jamais dit que c'était anglais déjà. Et ensuite, je comprends pas du tout l'histoire de la bataille tactique en Angleterre. Donc Arteta et Guardiola, ils n'ont pas le droit de tactiquement d'être forts.
Non, mais je plus sois à 100% sur ce que tu viens de dire, mais il faut en voir les conséquences. Moi, j'ai tenu un quart d'heure. Parce que Arsenal, j'ai regardé, et juste avant l'after de 20h, j'ai regardé un résumé qui était tellement bien fait que j'ai l'impression que c'est Arsenal qui avait dominé. C'était assez extraordinaire ce résumé sur une chaîne évidemment française qui diffuse cette rencontre. Ce qui est assez impressionnant, c'est en Allemagne, on dit qu'on a mis le bolwerk. Le bolwerk, c'est la forteresse. En gros, ils ont mis le mur. Donc, quand toutes les équipes jouent contre Guardiola et mettent le mur, on les critique. Mais quand Arsenal le fait, c'est formidable. Je trouve ça un petit peu limite. Et la deuxième chose qui, moi, m'énerve plus que la stratégie mise en place par Arteta, c'est que comment se fait-il qu'au bout de 15 ans, aucun coach au monde ne sache trouver la parade à ce que fait Pep Guardiola. Ça devient pénible. Parce que tout le monde aujourd'hui me parle de statistiques, on maîtrise tout, on fait ceci, on fait cela. Et finalement, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas le personnage de Pep Guardiola, c'est de loin le meilleur entraîneur du monde. Il a plus de 70% de possession, je parle sous le contrôle de Julien, il y a des centres dans tous les sens, etc. Nathan Aké, je crois qu'il y a une main sur sa tête, mais en fait, si elle rentre là, le match, à mon avis, il est plié, ça finit à 3-4-0, et il se fait que ça rentre pas. Donc, et puis on peut même aller plus loin, on pourrait dire que c'est un masterclass d'Arteta si à la 85e, Trossard fait pas n'importe quoi lorsqu'il rate son contrôle. Donc moi, ce qui se situe au-delà de cette rencontre, c'est de se dire, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas, alors qu'il y a des nouvelles générations qui passent leur temps à dire, mais moi je m'inspire de Guardiola, moi je fais ceci, moi je fais cela, qu'il n'y a pas un coach au monde capable de contrer ce que fait Pep Guardiola maintenant depuis des années.
Ouais, de le contrer au-delà de mettre le but, c'est ça que tu veux dire en fait, Paul.
Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais.
Après, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire. Et je vois où tu veux en venir. Après, contre le Real, il y a des éléments que même le meilleur entraîneur du monde, et on peut dire qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, oui. Guardiola est le meilleur entraîneur du monde. Tu vois, contre le Real, il y a un élément de magie qui fait que le Real. Et un truc qui est incalculable. Et heureusement, parce que sinon, ça serait pas la peine.
Ils en ont pris 4 la saison dernière. Qu'est-ce que tu racontes? Ils en ont pris 4.
Je te parle de la saison d'avant, quand le Real gagne la Ligue des Champions, où là, le City est supérieur sur les deux matchs, et City est éliminé. Avec des retournements de situation incroyables, et des buts à la dernière minute, et dans le temps additionnel. Donc, en fait, la perfection ne peut jamais être parfaite dans le football. C'est-à-dire, t'as beau être le meilleur joueur du monde, t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde. Il y a un élément.
En tout cas, il s'en rapproche très sérieusement.
Oui, mais sauf que mais ça ne suffit pas.
Non, bien sûr.
Parce que sinon, il aurait gagné hier encore. Tu vois, donc, non. Moi, je comprends ce que dit Polo. Oui, c'est le meilleur joueur du monde. Oui, c'est l'équipe où il y a le plus d'argent pour acheter. Il a pu dépenser des milliards et des milliards. Simplement, il y a toujours une petite donnée qui font une donnée incalculable.
Oui.
Qui est le football, qui fait que ça peut jouer, ça peut se. Il ne peut pas toujours gagner. Et heureusement, sinon, ce serait pas drôle.
Ouais. Après, un qui a plus ou moins réussi quand même à le faire, et plus que moi d'ailleurs, c'est Klopp.
Oui.
Et c'est peut-être pas pour rien si c'est l'autre meilleur entraîneur au monde, chez cette catégorie de coach. Il y a des matchs de Liverpool où Liverpool a été excellent contre City, les a battus déjà, ce qui est quand même pas simple, mais les a battus à travers le jeu. Alors c'est peut-être pas de l'ultra possession, je sais pas ce que ce qui est entendu dans on peut pas battre Guardiola autrement qu'en mettant le bus, mais Liverpool c'était pas un bus, c'était du contre-pressing, c'était beaucoup d'agressivité, c'était beaucoup de mouvements, c'était beaucoup de déplacements pour sortir les joueurs de City de certaines zones, mais Klopp lui a réussi à le faire. Mais effectivement quand t'es face au meilleur, évidemment que t'as beaucoup plus de difficultés.
Et au meilleur joueur aussi, parce que Guardiola, sans ces joueurs-là, enfin, c'est ça aussi, hein.
Oui, non, mais
c'est aussi le talent de Guardiola.
C'est pas des équipes d'amateurs.
Mais c'est pareil, non, mais c'est pour ça.
Voilà.
Non, après,
moi, ce qui m'agace, c'est que Guardiola, on dit toujours, il a dépensé de l'argent, il a les meilleurs joueurs. Mais le Barça a dépensé beaucoup d'argent, le Real a dépensé beaucoup d'argent, United a dépensé beaucoup d'argent, et ils ont pas
au Real, au Barça, il a hérité d'une génération absolument incroyable. Incroyable.
Oui, jamais après, vu dans l'histoire du. Beaucoup ont eu ça. Il a réussi à mettre en musique ça, cette équipe-là, faire des bons choix, des petites touches chaque été, effectivement. Bon. Voilà. On a encore quelques mots à dire sur ce match, et notamment sur Erling Haaland dans un instant. On va faire une pause. Julien, tu restes avec nous, très silencieux, Julien. Il n'a pas réagi encore. Notre nouvelle.
Non, j'écoute, c'est très intéressant.
Rôle de dame globalisée, comme la qualifié presque.
Bah, là, c'est, et désormais, le reste du monde contre lui, hein. C'est normal, Julien.
Enfin,
c'est
vrai qu'on après, je suis pas d'accord, mais il faudrait une autre émission pour.
Je plus sois sur ce que vient de dire Julien. Je suis pas d'accord sur les conséquences.
Ah non, on a compris, Polo. On a compris. Après, est-ce que la Première Ligue est un championnat globalisé?
Ah bah ça c'est évident.
Plus que la Ligue 1, par exemple, on peut s'y en débattre. Hein. Restons, les gars.
La Première Ligue, enfin, ce n'est plus l'Angleterre en tant que telle. Je veux dire, c'est la plupart des clubs appartiennent à des étrangers. C'est
beaucoup de championnats, le cas. Hein.
Oui,
c'est plus ou moins globalisé en réalité.
C'est l'avant sur tout le monde. Les droits, c'est le double des autres, etc.
Oui, aujourd'hui, c'est encore autre chose.
Bah oui, non, mais c'est le terrain de foot le plus important au monde, c'est l'Angleterre aujourd'hui.
C'est la NBA du foot, voilà.